Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Ce matin, nous allons, en préparation de notre temps autour de la table du Seigneur, examiner le 11e chapitre de 1 Corinthiens, où nous avons déjà poursuivi la vérité de Dieu, et cela a été une grande bénédiction. Nous avons l'habitude, comme je l'ai dit plus tôt, de partager la table du Seigneur le mercredi, mais étant donné que c'est l'étude de ce matin, nous ne voulons pas hésiter à la partager avec impatience et avec joie. Nous avons commencé notre étude dimanche dernier, les versets 17 à 34. C'est un passage significatif qui est quelque peu familier pour tous ceux d'entre nous qui sont dans l'Église depuis un certain temps, en raison du fait que cela parle de la table de communion. Et nous voulons fixer notre attention sur la lumière de son contexte ce matin. Je pense que nous avons tous au moins regardé 23 à 26 fois ce passage par le passé, mais nous n'avons peut-être jamais vu son contexte. Dans la situation telle qu'elle existait à Corinthe, et comme elle existe aujourd'hui, en tirant des idées très pratiques de ce contexte, non seulement une direction positive des versets eux-mêmes. Et ainsi, nous arrivons à la partie 2 dans notre étude de la célébration de la scène du Seigneur. La dernière fois, nous avons couvert les versets 17 à 22. Ce matin, nous voulons regarder le reste, jusqu'au verset 34. Mais dans un sens préliminaire, je veux attirer votre attention sur le 6e chapitre de Jean, si vous me le permettez, pour un premier regard, sur un passage très important, qui nous aidera dans notre compréhension de la scène du Seigneur, telle que Paul l'explique dans le 11e chapitre de 1 Corinthiens. Jean 6, 51. Dans ce 6e chapitre, entre autres, l'intérêt principal est que le Seigneur Jésus-Christ se présente au peuple juif comme le pain de vie. Et après avoir passé quelque temps à discuter avec eux, il tire une sorte de conclusion à partir du verset 51 en ces mots. « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Maintenant, Jésus dit qu'il est le pain vivant et qu'il est descendu du ciel. Cette déclaration concerne sa divinité. Et si quelqu'un mange ce pain, il reçoit la vie éternelle. » Et puis il décrit le pain comme sa chair. Tout cela veut dire que Dieu est devenu la chair incarnée dans un corps humain. Il est entré dans le monde, et quand les hommes se consacrent, ce que signifie manger, quand ils s'approprient le Christ, ils reçoivent la vie éternelle. Il parle dans la terminologie physique, mais cela a un message spirituel. Reçois-moi, approprie-moi, prends-moi pour satisfaire ton âme, comme un homme prend du pain pour satisfaire sa faim. Là-dessus, les Juifs, verset 52, disputaient entre eux disant « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Ici, ils l'interprètent physiquement. Jésus leur dit « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Deux choses, sauf si vous pouvez accepter l'incarnation et accepter la mort expiatoire du sang, vous n'aurez jamais la vie éternelle. » La vie éternelle consiste à croire que Dieu est venu dans la chair humaine et qu'il est mort d'une mort substitutive, expiatoire et sacrificielle pour le péché. Manger la chair signifie reconnaître et s'approprier que Christ est Dieu dans la chair humaine. Boire le sang, c'est accepter, reconnaître, croire et s'approprier sa mort sacrificielle. Au verset 54, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. » Jésus tire l'appropriation de lui-même d'une métaphore, ou d'une figure de la parole très physique, le pain. Il dit à ses Juifs, « Si vous ne pouvez pas accepter le fait que je suis Dieu dans la chair humaine, et accepter le fait de ma mort, vous ne connaîtrez jamais la vie éternelle. Manger sa chair et boire son sang n'est pas littéral, c'est figuratif, pour s'approprier tout ce qu'il était, qu'il est, et ce qu'il a fait sur la croix. Maintenant écoutez, quand vous étiez sauvé, vous l'avez fait. Dans un sens spirituel, vous avez dit, « Je crois que Jésus est Dieu, qu'il est entré dans le monde dans la chair humaine. Je crois que Jésus a versé son sang comme sacrifice pour expier le péché pour les péchés du monde. Et vous vous l'êtes approprié. Lorsque vous partagez la communion, que vous prenez le pain et que vous prenez la coupe, vous symbolisez extérieurement cette appropriation spirituelle. En acceptant la divinité de Christ et sa mort sacrificielle substitutive, pour vous spirituellement, à votre salut. Vous déclarez cela dans le pain et la coupe. Ainsi, la communion devient alors un symbole de notre acte de salut. Cela devient une confirmation. Cela devient une reformulation. Si vous le voulez, cela devient une dédicace à notre acte de salut, de croire et de recevoir le Christ. Et donc, c'est une chose vitale que nous partageons. Et comme nous l'avons vu la dernière fois, l'Église primitive a pris l'habitude de partager le repas du Seigneur en tant que signe, comme je viens de le dire, en tant que symbole extérieur de cette réception intérieure, en outre comme un mémorial à celui qui a vécu et est mort pour elle. Troisièmement, en tant que communion, en tant qu'être vivant, communion avec lui. Et nous avons vu que dans 1 Corinthiens 10, 16 à 18, lorsque nous prenons part à la table du Seigneur, nous communions littéralement avec lui. Il est présent, il est là, nous communions avec lui. Et quatrièmement, plus loin, la table du Seigneur est une proclamation. Nous montrons la mort du Seigneur. Ainsi, c'est une déclaration au monde que nous croyons que Jésus était Dieu dans la chair humaine, qu'il est mort d'une mort expiatoire substitutive pour nous. Et cinquièmement, la célébration de la communion est eschatologique. C'est un grand espoir. Jésus a dit, « Faites ceci jusqu'à ce que nous le fassions ensemble, à nouveau dans le royaume, et nous le faisons en prévision de son prochain retour. » Donc ceci est une expérience sacrée, spéciale, sérieuse, et je pense pleine d'adoration dans la vie d'un croyant. Il nous incombe de la traiter avec dignité, avec honneur, de la célébrer comme cela mérite. C'est précisément ce que les Corinthiens n'ont pas fait. Les Corinthiens avaient transformé le repas du Seigneur en moquerie. Comme nous l'avons vu dans notre dernière étude, quand nous avons regardé les versets 17 à 22, ils avaient perverti le repas du Seigneur. C'est le point numéro 1 dans mon plan aujourd'hui. Et nous allons couvrir les points 2 et 3. Si vous voulez regarder cela, il y a un aperçu qui est inséré dans votre bulletin. Nous avons vu dans la perversion du repas du Seigneur qu'il venait à la scène du Seigneur sous, comme des goinfres. Les riches se bourraient et buvaient. Ils étaient goinfres et refusaient de partager leur nourriture avec les pauvres, afin qu'ils n'aient rien à manger lors du festin d'amour qui précédait la scène du Seigneur à cette époque. Ils venaient au repas du Seigneur, se haïssant les uns les autres, avec des factions, des divisions, des amertumes et des péchés non confessés. Et le résultat de tout cela, c'est dans le verset 20. Paul dit, « L'heure donc que vous vous réunissez. » Voici le grec littéral. « Il vous est impossible de manger la scène du Seigneur. » Vous pouvez vous rassembler, et vous pensez que vous célébrez la scène du Seigneur, mais c'est une impossibilité à cause de votre attitude. Certains d'entre vous sont ivres, certains d'entre vous sont dépouillés, certains d'entre vous sont gourmands, certains d'entre vous se détestent. Il y a de l'amertume, il y a la faction, il y a la division, il y a des divisions de classe, il y a des divisions à cause des points de vue théologiques, il y a des divisions sur chaque opinion concevable au sein de l'Église. Il n'y a pas de vraie communion des croyants. Il n'y a pas de vraie communion avec Christ à cause de tout le péché. Vous avez débauché, profané le repas du Seigneur, et ce que vous faites n'est pas la scène du Seigneur. Peu importe comment vous l'appelez, ce n'est pas le cas. Maintenant, à partir de cette déclaration sur la perversion du repas du Seigneur, Paul se déplace vers le deuxième passage, le but de la scène, commençant au verset 23. Voyons cela. C'est une belle présentation de la signification de la scène du Seigneur. Et si vous êtes chrétien depuis un moment, je sais que vous avez entendu ce passage, et peut-être que certains d'entre vous l'ont mémorisé à cause de sa fréquence. Mais ce qui est si beau, c'est que c'est une partie absolument magnifique de l'Écriture, et qu'elle est tombée au milieu d'une situation désordonnée. C'est comme un diamant dans une motte de terre. C'est juste que la situation environnante à Corinthe était si vile et si mauvaise, et Paul, au milieu de cela, laisse tomber ce magnifique joyau sur la beauté et le but de la scène du Seigneur, au milieu de leur situation problématique. Il dit au début de ce passage, « Voici ce que vous faites. » À la fin, il dit, « C'est pourquoi vous êtes châtiés. » Et il traite des situations négatives avant et après. Mais juste au milieu, versets 23-26, se trouve la beauté de la signification de la scène du Seigneur. Paul était doué pour placer ce genre de choses en plein milieu des situations laides, et il le fait ici. Commençons au verset 23. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Arrêtez-vous là une seconde. « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai aussi donné. » Ce que je dois vous dire n'est pas l'opinion humaine. Ce que je dois vous dire n'est pas ma propre idée. Ce que je dois vous dire n'est pas une tradition qui a été transmise d'homme à homme. Mais ce que j'ai à vous dire, je l'ai reçu du Seigneur, et je vous l'ai livré. Il y a deux ordonnances dans l'Église, la communion et le baptême. L'un et l'autre ont été ordonnés par l'exemple du Christ, ordonnés et initiés par lui. Et ici, c'est la même chose. Donc Paul dit que cela vient directement du Seigneur, c'est son repas. Il l'a institué. Vous remarquerez au verset 20, le repas du Seigneur, que c'est son repas. Maintenant, regardons plus loin le verset 23. « Car j'ai reçu du Seigneur, c'est-à-dire par une communication directe des paroles mêmes que Jésus a dites cette nuit. Il dit, ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. » Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Maintenant, ici, Paul cite Jésus. C'est pourquoi il dit que c'est « la parole du Seigneur que je vous remets ». Il cite Jésus la nuit où il a été trahi, la nuit avant sa mort, et je pense que c'est intéressant. Si vous regardez le verset 23, il dit que le Seigneur Jésus, la même nuit où il a été trahi, a pris du pain. Pourquoi dit-il cela? Parce qu'il veut situer l'histoire, il veut la situer dans son contexte historique, parce que cela a beaucoup de sens. Vous dites, mais il aurait pu le dire la veille de la Pâque, ou il aurait pu le dire le jeudi soir, avant la crucifixion. Pourquoi le dit-il la même nuit où il a été trahi? Parce que le Nouveau Testament fait quelque chose de très intéressant périodiquement. Et c'est cela qui situe le plus glorieux, le plus beau, le plus merveilleux, sur le fond, le plus laid, de sorte que par contraste, la beauté est visible. Par exemple, dans Jean 13, le passage que je pense être le plus beau sur l'amour dans la Bible, en plus de l'histoire de la croix, c'est Jésus lavant les pieds des disciples. Dans le passage où il lave les pieds des disciples, c'est l'interlude de Judas, qui est sur le point de sortir et de le trahir. Et Satan entre dans son cœur, au milieu de toute cette affaire. Et ainsi le contraste entre la haine de Judas et la saleté du diable, contre la beauté et l'amour de Jésus, le rend d'autant plus merveilleux. Sur la croix où Dieu le Fils meurt pour les péchés du monde, il y a de la haine, de la moquerie et du rejet tout autour. Mais cela le rend d'autant plus beau. Et ici, la plus belle ordonnance que le Seigneur n'ait jamais donnée pour la célébration de son Église se situe en contraste à la haine terrible, la cruauté de la trahison. Mais cela lui donne d'autant plus de beauté contre ce fond sombre. Maintenant, je veux que vous remarquiez que ce n'était pas qu'une nuit banale, une nuit ordinaire. Ce n'était pas seulement la nuit où il a été trahi, ce n'était pas seulement la nuit avant qu'il n'ait été crucifié, c'était la Pâque qu'il mangeait cette nuit-là. Une fois par an, les Juifs célébraient la Pâque. La Pâque était une fête commémorative qui leur rappelait tout ce que Dieu avait fait en les délivrant de l'Égypte dans le passé. Ils avaient été asservis en Égypte pendant plus de 400 ans, et Dieu les avait délivrés, vous vous en souvenez, par une série de plaies, dont la dernière était la mort du premier-né. Le seul moyen d'échapper à l'exécution du premier-né dans leur maison était de tuer un agneau. Un agneau sans tache, incidemment. Le premier-né du troupeau, de prendre son sang et de l'asperger sur le poteau de porte et la poutre supérieure. L'ange de la mort passerait et n'interviendrait pas sur les maisons où était le sang. C'est pourquoi cela s'appelle la Pâque. Et Dieu a dit, « Je veux que vous fassiez une fête cette nuit-là. Je veux que vous mangiez cet agneau. Je veux que vous mangiez des herbes amères. Et je veux que vous mangiez du pain sans levain. » Et il a institué une fête qui a été commémorée depuis ce temps, jusqu'à aujourd'hui, par les orthodoxes et même certains juifs conservateurs. Donc la Pâque était vraiment le sommet dans l'histoire d'Israël. Vous voyez, la Pâque pour un juif, c'est célébrer la puissance de la délivrance de Dieu. C'était Dieu comme sauveur, les emmenant hors d'Égypte à la terre promise. C'est notre équivalent de la croix, où il nous enlève de l'esclavage au péché dans le royaume de son cher Fils. C'est le même parallèle, c'est Dieu, le sauveur, Dieu le délivreur. Et ainsi, c'était la nuit pour le célébrer. Et incidemment, souvenez-vous toujours que Jésus a été crucifié le jour de la Pâque. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était le sacrifice ultime de la Pâque. Il était le sacrifice ultime de la délivrance. Donc, c'était la nuit précédant la Pâque, quand il mangeait le repas. Et Luc 22:7 nous indique que c'était en fait le repas de la Pâque. Vous n'avez pas besoin de le chercher maintenant, mais vous pouvez le chercher vous-même, à un autre moment. Laissez-moi vous dire comment cela s'est passé. La Pâque commence avec une personne qui préside. Ce pourrait être le père, ou ce pourrait être un patriarche de la famille, ou quelqu'un d'autre qui prononce une bénédiction. Appelez-le qui douche. Et je ne suis pas très bon en prononciation juive, mais c'est comme cela qu'on l'appelle. Certains d'entre vous sont peut-être meilleurs sur le sujet. Le kiddush, c'était la bénédiction sur la première coupe. Maintenant, il y avait quatre coupes qui étaient bues lors de la Pâque. La première, c'était le kiddush, c'était la coupe bénie, et c'était toujours du vin rouge. Et c'était, bien sûr, un symbole du sang de l'agneau, au passage en Égypte. La personne qui présidait buvait la coupe, et ensuite, il la faisait circuler, et tous les autres en buvaient aussi. Et cela était suivi par ce que vous appelez aujourd'hui des hors-d'œuvre, des amuse-gueules, des herbes amères trempées dans de la rosette. Et ils ont pris les herbes amères et les ont trempées dans la rosette, qui est une sauce aux fruits, et ils les ont mangées. Maintenant, après que cela a été fait, et c'était juste un préliminaire, juste pour avoir un petit peu d'appétit si vous voulez, puis vint une conférence sur la signification de la Pâque. C'est toujours traditionnel. La Pâque a été décrite. Il devait manger un agneau parce que c'était un agneau que Dieu avait prescrit pour être tué, et dont le sang était répandu sur la porte. L'agneau a ensuite été mangé pour symboliser le passage de Dieu sur Israël en Égypte. Il mangeait des herbes amères parce qu'elles symbolisaient l'amertume de leur servitude. Il mangeait du pain sans levain parce qu'Israël sortait d'Égypte, et il fallait se dépêcher, et apporter du pain qui ne se pourrirait pas, parce qu'ils ne pourraient plus en faire une fois sur la route. Ils avaient besoin de ce genre de pain aigre doux qui ressemblait à un grand et énorme biscuit salé et qui durerait longtemps. Donc tout cela est expliqué, après les herbes et le vin initial. Puis ils ont chanté. Et qu'est-ce qu'ils ont chanté? Ils chantaient le Hallel, que nous appelons Alléluia. Le Hallel est le psaume 113 à 118, et ils ont commencé par chanter soit le 113 ou le 113 et le 114. Ce sont les hymnes d'ouverture qu'ils chantaient, après l'explication de la signification de la Pâque. Maintenant, après avoir chanté quelques psaumes, ils ont pris la deuxième coupe, la coupe numéro 2. Ensuite, le chef a pris le pain sans levain. C'est le gros pain plat, et il a béni Dieu. Il l'a rompu, et il l'a distribué à tout le monde. Puis le repas commence. Je vous ai dit la semaine dernière que le repas commence toujours quand l'hôte rompt le pain. Et ensuite le repas de la Pâque est mangé. Quand le repas de la Pâque est terminé, l'hôte prie à nouveau, et ensuite il prend la troisième coupe, encore une coupe de vin. Ils prient et ils boivent. Après cela, ils chantent le reste du Hallel, les psaumes 115 à 118. C'est pourquoi les disciples, vous vous souvenez, la nuit dans laquelle le repas du Seigneur a été institué, dit, et après qu'ils aient quoi? Chanté un hymne, ils sont sortis. Ils chantaient le reste du Hallel. C'était traditionnel. Et après avoir chanté tout cela, avant qu'ils étaient congédiés, la quatrième coupe fut prise, et c'était pour célébrer le royaume à venir. Donc ils étaient là. Si vous étudiez les évangiles avec cela à l'esprit, vous pouvez visualiser à peu près en détail ce qu'ils font à chaque moment de la scène du Seigneur, la Pâque. Quelque part, au moment où le pain sans levain était brisé avant le repas, Jésus prit ce pain qui symbolisait l'Exode, le rompit et dit « Ce pain est mon quoi, corps ». Après le repas, il prit cette troisième coupe, et nous savons que c'était après le repas, car il dit « après avoir soupé ». Cela ne veut pas dire « après avoir bu », cela signifie « après le souper ». Il prit cette troisième coupe et dit « cette coupe qui a représenté le sang d'un agneau à la Pâque n'est plus représentative de cela. Cette coupe est mon sang qui est versé pour vous. » Et par cela, Jésus a transformé la Pâque en la scène du Seigneur. Et il a dit « maintenant, quand vous voulez vous souvenir, vous ne voulez pas vous souvenir de l'Exode, vous ne voulez plus vous souvenir de l'Égypte, vous ne voulez plus vous souvenir de la Pâque quand vous pensez au Dieu Sauveur, quand vous pensez à Dieu en tant que libérateur, vous voulez vous souvenir de ma mort. La Pâque était une bonne chose qui vous a fait sortir d'Égypte pour, finalement, aller à Canaan. Ma mort va vous sortir de l'esclavage de Satan et finalement vous amener au paradis. La Pâque ne vous a fourni qu'une libération physique. Ma mort vous procurera une libération éternelle et spirituelle. Et quand vous voulez une vision de Dieu comme sauveur, de Dieu comme libérateur, cela ne sera plus par la fête de la Pâque, mais par la scène du Seigneur. Et ainsi, Jésus a pris cette belle fête de la Pâque, et la nuit avant sa mort, il l'a transformée en son propre repas. Et maintenant, quand nous nous réunissons, ce n'est pas pour célébrer Dieu comme le grand libérateur à cause de ce qu'il a fait en Égypte, mais c'est Dieu, le grand Dieu sauveur, qui a délivré à cause de ce qu'il a fait à la croix. La transformation a eu lieu. Maintenant, je veux que vous remarquiez quelque chose. L'Église catholique romaine et moi-même pensons que la vision consubstantielle de l'Église luthérienne et ainsi de suite dit « Ceci est mon corps », versets 24 à 25. « Ceci est le Nouveau Testament dans mon sang ». Et à cause d'un malentendu sur la signification de l'estin, le verbe être en grec, ils ont décidé que cela devait littéralement être le corps et le sang de Christ, soit dans un sens très physique, soit dans une sorte de sens spirituel étrange. Ce n'est pas ce qu'il dit. Le verbe être, estin, ou quelle que soit la forme que vous voulez, singulier ou pluriel, est fréquemment utilisé pour signifier des représentants. Ce pain n'est pas son corps, il représente son corps. Cette coupe n'est pas son sang, elle représente son sang. Lorsque Jésus a dit dans Jean 10 « Je suis la porte », il voulait dire « Je suis le sauveur et le berger des moutons » représente une porte dans la bergerie. Il n'était pas littéralement une porte. Dans Matthieu 13, quand il a donné la parabole du blé et de l'ivraie, il a dit « Le champ et le monde ». Il ne voulait pas vraiment dire que le champ est le monde. Dans la parabole, il voulait dire que le champ représente le monde. Et il a dit que la bonne semence représente les enfants de Dieu, et la mauvaise semence, les enfants du malin. Et bien sûr, les mots sont, dans ces cas, simplement utilisés en tant que symboles. Ils sont utilisés dans un sens figuré, métaphorique. Donc, ici, il dit « ce pain représente mon corps, et cette coupe représente mon sang ». Ce n'était pas son sang réellement. Son sang était toujours dans ses veines quand il a dit cela. Ce n'était pas son corps. Son corps était toujours assis, là, quand il a dit cela. Donc, nous ne parlons pas de choses littérales. Rappelez-vous, c'est exactement ce que les Juifs pensaient dans Jean 6. Comment allons-nous manger sa chair? Il n'y a pas assez de lui à partager, pensait-il. Ainsi, Paul dit au verset 23, que le Seigneur Jésus a pris du pain, et quand il a rendu grâce. Et c'est eucharistéo en grec, dont vous obtenez l'eucharistie. Il a rendu grâce. Il l'a rompu. Et c'est ainsi que tous peuvent partager ce pain commun. Et a dit, cela représente mon corps qui est pour vous. Cela représente mon corps. Que veux-tu dire par là, Seigneur? Le corps de l'esprit juif représentait l'homme tout entier, l'homme total, toute la vie incarnée du Christ. Ce pain représente tout ce que je suis en tant que Dieu incarné. Le mystère de l'incarnation est là depuis le jour où il est né, jusqu'au jour où il est mort, et même quand il est ressuscité. Toute l'incarnation est résumée dans le terme « corps ». C'est Dieu dans la chair humaine. Souvenez-vous que je suis devenu homme, j'ai souffert, et j'ai été rejeté, méprisé, pour finalement mourir pour vous. Mais c'est un tout, pas seulement sa mort. Dans le pain, il n'y a pas seulement sa mort, mais toute son incarnation. Ceci est mon corps, représente mon corps, qui est pour vous. Le mot brisé n'apparaît pas dans les meilleurs manuscrits. En fait, si vous lisez attentivement Jean 19, il est dit que les soldats sont venus après que Jésus était sur la croix, et ils ont remarqué qu'il était déjà mort. Alors, ils ne lui ont pas brisé les jambes, afin que l'Écriture soit accomplie. Et aucun de ses os ne sera quoi, brisé. Nous lisons le sang versé et le corps brisé. Non, le corps n'a jamais été brisé. Aucun os de son corps n'a été brisé. Voici mon corps qui est pour vous. Les deux plus beaux mots de ce verset sont les deux mots « pour vous ». Il dit « Regardez, que cela vous rappelle, que cela représente le fait que Dieu est devenu un homme pour vous. Pourquoi Dieu s'est-il incarné? Pour lui-même? Non, pour vous. Pourquoi est-ce que Jésus est venu dans ce monde et a souffert? Pour vous. Pourquoi a-t-il souffert la haine, les moqueries, les méprisants et le complot de toutes les personnes qui ne pouvaient tout simplement pas le tolérer? Pourquoi est-il passé partout? Pourquoi est-il allé au jardin nuit après nuit et a déversé son cœur dans l'angoisse? Pourquoi a-t-il sué de grandes gouttes de sang? Pourquoi est-il mort sur la croix? Pour vous. Voilà pourquoi, pour vous. C'est mon corps qui est pour vous. C'est pour vous. Quel Dieu incroyablement gracieux, magnanime, aimant, miséricordieux, pour vous. Vous dites, mais je ne le mérite pas. Vous avez raison, mais c'est toujours pour vous. Mais je ne le veux pas. Mais c'est toujours pour vous. Si vous ne choisissez pas de le prendre, c'est votre problème. Mais c'est pour vous. Vous voyez, Jésus a dit, « Regardez, c'est pour vous. Vous rappellerez-vous cela? Tout ce que j'ai fait est pour vous. Toute la vie de souffrance et d'angoisse m'équipe pour être un grand prêtre compréhensif pour vous, afin que vous puissiez venir à moi et que vous puissiez vous appuyer sur moi, m'entendre dire « Oui, je comprends, j'ai vécu ça. » Pour vous. Je n'ai pas besoin de cela, c'est pour vous. Mon corps est donné pour vous. Toute l'incarnation, bien-aimé, était pour vous. La raison pour laquelle il est mort était pour vous. Il est mort comme un substitut pour vous. Il a vécu pour qu'il puisse être un sympathisant pour vous. C'est vrai. Ainsi, il dit en réponse à cela. Feriez-vous cela en mémoire de moi? Je veux dire, puisque j'ai fait tout cela pour toi, ferez-vous quelque chose pour moi? Vous dites, vous devez dire, « Oui, Seigneur, quoi? Voulez-vous simplement le faire en mémoire de moi? Vous savez, je me demande parfois quelle est la ligne la plus simple de l'obéissance chez les chrétiens. Je parlais à des chrétiens récemment, et j'ai dit à cette personne en particulier, j'ai dit, « Depuis combien de temps n'avez-vous pas eu la communion, la table du Seigneur? » « Oh, environ un an et demi, je pense. » Et j'ai dit que c'était un péché. C'est de la désobéissance. Regardez le verset 24. Jésus a dit, « Faites ceci. Avez-vous compris? Faites ceci. Maintenant, soit vous le faites, soit vous ne le faites pas. Et si vous le faites, c'est de l'obéissance. Et si vous ne le faites pas, c'est quoi? C'est de la désobéissance. Faites-le. Vous dites, « Mais vous ne l'avez pas souvent ici. Alors faites-le ailleurs. Faites-le dans votre maison. Faites-le dans votre étude biblique. Faites-le dans votre groupe de prière. Faites-le. Faites cela, dit-il. C'est assez simple. » A-t-il dit de le faire dans l'église? A-t-il dit de le faire le dimanche matin? Non, il a dit de le faire. Faites cela. Pourquoi? En souvenir de moi. Je ne sais pas si nous pouvons comprendre le mot souvenir à juste titre. Parce que nous pensons à nous souvenir de quelque chose. Vous savez, oh oui, je me souviens, c'est arrivé dans le passé. Les Hébreux ne se souvenaient pas de cette façon. Pour un Hébreu, se rappeler, maintenant marquez cela. Signifier appeler dans la plénitude de l'esprit conscient la présence de celui que vous vous rappeliez. Ce n'est pas juste « Ah ouais, je me souviens de cela, ouais, c'est arrivé, vous savez, il y a 2000 ans. Il est mort sur la croix, je m'en souviens. Je m'en souviens, Seigneur. » Non, c'est pour revenir à cet événement et rappeler tout cela dans le présent, afin de vivre dans la présence consciente de Jésus-Christ. Quand un Hébreu se rappelait, cela signifiait pour lui que son esprit, son âme et son cœur étaient remplis de la conscience de la réalité, de celui dont il se souvenait. Jésus dit, « Faites ceci, et quand vous le ferez, m'appellerais-tu dans ton esprit conscient? Non seulement ma mort pour vous, mais ma vie pour vous, toute mon incarnation. Considérez-vous cela dans votre esprit conscient. Vous voyez, vous pouvez venir, vous pouvez boire la coupe et manger le pain, et si votre esprit est à des millions de kilomètres, vous ne vous souvenez même pas du Seigneur. Peu importe ce que vous avez fait, jusqu'à ce que vous ayez éliminé toutes les autres choses dans votre esprit et l'appeliez dans votre présence consciente. Il dit, « Voulez-vous prendre ce pain? Le mangerez-vous et le ferez-vous en m'appelant la conscience de votre esprit? Tout ce que j'ai fait pour vous, toute ma vie, après tout, c'était pour vous. Communirez-vous avec cette réalité à l'esprit ?» Verset 25. Et de la même manière aussi, de la même manière, il prit la coupe après le souper. C'est pourquoi nous disons que c'est la troisième coupe, parce que le repas était mangé, le repas de la Pâque. Il a dit, cette coupe est la nouvelle alliance, diatéke, est toujours traduit par alliance, sauf peut-être à un endroit. Dans Hébreux 9, cela devrait être traduit d'une autre manière, mais avec cette exception, c'est l'alliance, c'est la nouvelle alliance, ou la nouvelle promesse, en mon sang, ceci, ou faites ceci aussi souvent que vous le buvez, en souvenir de moi. Maintenant, ici, il prend la coupe et il dit, ceci représente la nouvelle alliance en mon sang. L'ancienne alliance était ratifiée par le sang de quoi? Des animaux. La nouvelle alliance est ratifiée par le sang de Christ. Vous savez, quand vous signez un document, vous le ratifiez. Le président signe une loi et elle entre en vigueur. Quand quelqu'un vous envoie une police d'assurance, des documents légaux, un acte de vente pour une maison ou quoi que ce soit, vous prenez une plume et avec de l'encre, vous ratifiez la promesse. Ils promettent de vous donner un produit et vous promettez de leur donner de l'argent, ou peu importe. Ils promettent dans une police d'assurance de vous protéger et vous promettez de leur payer le coût de cette protection. Il y a une alliance ratifiée par le fluide, par l'encre. Dans l'Ancien Testament, Dieu a dit à Israël, « Je vous conduirai à la terre promise. Je passerai au-dessus de ta maison et n'exécuterai pas ton premier-né si tu signes sur la ligne pointillée. » Et avec quoi ont-ils signé? Le sang d'un agneau sur le poteau et le linteau. Et c'était le fluide qui a ratifié la promesse. « Dieu, tu fais ta part, nous ferons notre part. » Et dans tout l'Ancien Testament, Dieu a continué à dire que vous devez ratifier la promesse dans le sang. Et ils ont sacrifié, animal après animal, de sorte que le sang est coulé à travers la terre d'Israël, à travers toute son histoire, alors que le peuple continuait à renouveler la promesse, encore et encore. Et, en fait, quand les alliances ont été faites à l'Est, dans l'Ancien Orient, elles n'ont pas été faites en signant un nom au bas. Un animal a été tué, et le sang a été répandu sur les deux parties. Vous avez tous les deux été arrosés de sang, comme un signe que vous allez tenir votre promesse. Un pacte ratifié par le sang. Jésus dit qu'il y a une nouvelle alliance. Dieu fait une nouvelle promesse. Vous savez ce que c'est que cette promesse? Ce n'est plus l'ancienne loi. Ce n'est plus l'ancienne loi qui stipule qu'il faut faire ce sacrifice, et celui-là. C'est une toute nouvelle promesse, la voici. Je pardonnerai tous vos péchés pour toujours. Et c'était nouveau. Il devait faire des sacrifices continuellement. Je ferai un sacrifice pour toujours, et ce sera le Christ. Et son unique sacrifice, et sa seule ratification par le sang, mettront fin au système sacrificiel pour de bon. C'est une nouvelle promesse. Dieu dit, « Je vous donnerai le pardon total pour toujours. Je vous donnerai la vie éternelle pour toujours, par le sang de Christ. » Et c'était comme si, sur la croix, Jésus prenait son sang et signait sur la ligne pointillée. C'est la nouvelle alliance, le sang de Christ. Ce n'est plus le sang d'un agneau sur un poteau de porte où Dieu dit, « Je vais vous sortir de ce pays et vous amener à la terre promise. » C'était temporel, ce n'était pas permanent. Mais le sang de la nouvelle alliance où Dieu dit, « Je vous emmènerai au ciel et je pardonnerai votre péché pour toujours, inconditionnellement, à cause de Jésus-Christ. » C'est la nouvelle alliance. Et ainsi, il dit que la coupe représente la nouvelle alliance. Vous n'avez plus besoin de retourner au sang de la Pâque. Acceptez le sang de la croix. Les Hébreux, bien sûr, ont versé à maintes et maintes fois ce sang, des milliers de fois. Ils disaient, « Je suis désolé, Dieu, je me lie à nouveau à ta promesse. J'ai péché à nouveau. S'il te plaît, pardonne-moi encore. Voici mon sacrifice. Je veux t'obéir, etc. » Mais nous venons une fois au nom du sang de Jésus et nous nous lions à la promesse. Mais vous savez quelque chose? À chaque fois que nous célébrons la scène du Seigneur tout au long de notre vie, nous répétons cette promesse, n'est-ce pas? Nous prenons la coupe et nous disons, « Je renouvelle extérieurement mon engagement, ma part du marché du salut. » Vous dites, « Quelle est ma part? » Dieu dit, « Je vais vous sauver. Je vais vous donner la vie éternelle. Je vous pardonnerai vos péchés pour toujours, si vous voulez faire une chose. Qu'est-ce que c'est? Croire. Lorsque vous prenez la coupe, vous dites « je crois, je renouvelle cet engagement, je renouvelle ce vœu, je réaffirme cet engagement ». Et Jésus a dit « faites cela, voulez-vous ». Vous dites « combien de fois ?» Souvent, aussi souvent que vous le pouvez, que vous le buvez. À quelle fréquence devrais-je boire ? Verset 26. Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Je vais vous dire à quelle fréquence vous le faites. Vous aimez proclamer la mort de Christ ? Combien de fois voulez-vous déclarer sa mort ? Combien de fois voulez-vous communier avec sa mort ? À quelle fréquence voulez-vous répéter cet engagement ? C'est à cette fréquence-là. Et quand vous le faites, souvenez-vous de ma mort. Vous souvenez-vous de moi, dans la plénitude de ce que ce souvenir signifie. Souvenez-vous de ma mort. Maintenant, vous remarquerez que ce n'est pas seulement une communion, mais une proclamation au verset 26. Vous montrez la mort du Seigneur au monde. Vous le proclamez. Le monde regarde la communion et dit « Que disent-ils ? » Et quelqu'un répond « C'est ainsi qu'ils célèbrent la mort de Jésus. C'est exact. Nous le proclamons au monde. » Si vous êtes ici ce matin et que vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ et que vous ne vous êtes jamais approprié sa mort, vous n'avez jamais cru qu'il est le Dieu incarné, qu'il est mort pour vous, une mort expiatoire par substitution, alors vous pouvez entendre le message qui vient de cette table ce matin et vous engager à Christ. J'ai déjà entendu parler de quelques personnes qui ont reçu Christ lors du premier service parce que le message est passé. Nous proclamons ici. C'est aussi eschatologique, comme je l'ai dit plus tôt, jusqu'à ce qu'il vienne. Il est dit au verset 26. Cela nous permet d'attendre avec impatience le jour où nous le ferons, avec lui. Donc, ce n'est pas une chose simple de venir à la table. Nous nous souvenons de ce que Christ a fait. Et ensuite, nous l'appelons en présence consciente, et nous renouvelons notre alliance et notre engagement avec lui. Nous communions avec le Seigneur vivant. Nous proclamons l'Évangile, et nous espérons son retour anticipé à cette table. C'est un endroit spécial, et quand nous y arrivons, Paul dit que nous ferons mieux de venir, avec des attitudes spéciales. Numéro 3, la préparation pour la scène du Seigneur. Et nous regarderons rapidement ceci. La préparation de la scène du Seigneur, verset 27. C'est pourquoi, celui qui mangera le pain, ou boira la coupe du Seigneur, anaxios, ou indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Il dit, c'est sérieux, c'est important. Si vous traitez communément cette chose inhabituelle, vous devenez, littéralement, responsable. C'est le mot coupable, du corps et du sang du Seigneur. Si vous venez à cette table à tort, vous êtes coupable de cela. Que voulez-vous dire par indignement, John ? Je vais vous dire comment. Vous pouvez venir indignement. Les Corinthiens l'ont fait. Voici comment vous pouvez traiter la table du Seigneur indignement. Premièrement, en l'ignorant plutôt qu'en lui obéissant, en ne le faisant pas. Vous dites que ce n'est pas pertinent, ce n'est pas grave, ce n'est pas important. Est-ce correct ? Non, c'est faux. C'est indigne de vous et indigne de lui. Deuxièmement, vous pouvez traiter la table indignement en faisant d'elle une performance plutôt que quelque chose de significatif, simplement en le faisant plutôt que de la comprendre. Je vais vous dire une autre façon de pervertir la table et de venir indignement, en le considérant comme une chose salvatrice plutôt qu'une communion, en pensant que si vous le faites, cela vous sauve, plutôt que de comprendre que cela ne fait que vous pousser vers un nouvel engagement et une nouvelle communion avec le Christ. Une autre façon de venir indignement est de traiter cela comme une cérémonie, plutôt que comme une expérience personnelle. Et vous pouvez venir indignement à cette table d'une autre façon, en la traitant à la légère, plutôt que de la traiter sérieusement. Si vous venez à cette table, avec quelque amertume, envers un autre chrétien de quelque manière, sous telle ou telle forme, avec un péché non confessé, vivant avec un péché dont vous ne vous repentirez pas et que vous ne repousserez pas, si vous venez avec moins que la pensée la plus élevée sur Dieu, le Christ et le Saint-Esprit et la parole de Dieu, si vous venez avec quelque chose de moins que l'amour total pour les frères et sœurs dans le corps de Christ, vous venez à cette table, indignement, et vous dites, quel est le résultat ? Regardez, vous êtes responsable du corps et du sang du Seigneur. Vous dites, John, qu'est-ce que vous voulez dire par le fait que je suis responsable du corps et du sang du Seigneur ? Vous contactez la culpabilité en référence à Christ. Vous le traitez littéralement d'une manière indigne, et vous devenez coupable de ce genre de mauvais traitement. Vous traitez la totalité de la vie et de la mort du Christ indignement, et vous êtes coupable. Dieu dit que vous êtes coupable de cela. Vous devenez coupable, responsable. Par exemple, un homme qui piétine le drapeau de son pays ne fait pas que piétiner le drapeau. Il insulte son pays. Il devient coupable de déshonorer sa nation. Et quelqu'un qui piétine avec les pieds de l'indifférence ou du péché, le corps et le sang représentés dans les éléments de la communion, est coupable de déshonorer, de se moquer, de traiter avec indifférence et hypocrisie la personne même de Jésus-Christ. La manière dont vous traitez cette table, bien-aimée, c'est comment vous traitez Jésus. C'est ce qu'il dit. Et cela me dit que c'est une rencontre très réelle avec le Christ. En fait, c'est tellement réel que le fait de ne pas reconnaître la réalité et la gravité de la situation amène le jugement. Donc, que faites-vous? Verset 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Cela exige un examen de conscience, un regard sur votre cœur. Y a-t-il quelque chose qui ne devrait pas être là? Le mot ici en grec signifie un auto-examen rigoureux. Votre vie, vos motivations, votre attitude envers le Seigneur, votre attitude envers la scène, votre attitude envers les autres chrétiens. Assurez-vous que vous n'êtes pas insouciant, désinvolte, indifférent, divertissant le péché, impénitent, moqueur et tout cela. Et quand vous vous serez examiné, vous pouvez manger du pain et boire la coupe. L'examen d'abord. Pourquoi? Parce que celui qui mange et boit indignement, mange et boit, krima, en grec, devrait être traduit par châtiment. Ce n'est pas de la damnation. C'est la pire traduction que j'ai lue. Cela signifie châtiment. Katakrima signifie damnation, qui est utilisé dans le verset 32. Krima est un mot moins intense. Cela signifie châtiment. Si vous mangez et buvez indignement, vous mangerez et boirez à vous châtier, parce que vous ne discernerez pas le corps du Seigneur. En d'autres termes, vous ne traitez pas la réalité du Christ avec sérieux, dignité, pureté et sainteté. Si vous ne voyez pas le sérieux et la sacralité du repas du Seigneur, communion avec le corps et le sang de la personne même de Jésus-Christ, et que vous le traitez avec le péché, alors vous êtes littéralement coupable de le déshonorer. Vous devenez responsable de châtiment, et vous serez châtié parce que vous n'avez pas réfléchi sérieusement à ce que vous faites. Vous n'avez pas discerné la signification du corps du Seigneur. Maintenant, certains voudraient inclure dans le terme « le corps du Seigneur » aussi l'Église. Vous ne considérez pas sérieusement l'Église, le corps de Christ. Cela peut être latent, mais dans le texte, le mot « corps » fait toujours référence au corps actuel du Seigneur. Et le résultat de ce genre de châtiment, que fait-il? Comment Dieu nous châtie-t-il? À Corinthe, c'est ce qu'il a fait. Verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Le Seigneur a dit qu'à cause de l'abus de la table du Seigneur par les Corinthiens, certains d'entre eux étaient devenus faibles. Ils étaient légèrement malades. Certains d'entre eux étaient très malades, et certains d'entre eux avaient été tués. Et d'ailleurs, le grec dit qu'un nombre suffisant était mort. Je ne sais pas combien Dieu a tué d'hommes à Corinthe, mais un bon nombre. Pourquoi les a-t-il tués? Quel mal ont-ils fait? Le mal de venir à la table du Seigneur d'une manière irrévérencieuse. Vous avez une petite idée de combien c'est du sérieux? Personnellement, je crois qu'Ananias et Saphira, qui ont été exécutés par Dieu pour leurs péchés, ont probablement été tués et exécutés lors d'un service de communion. Ce serait très strict, n'est-ce pas? Ils sont probablement tombés raides de mort lors d'un service de communion, parce que c'est ce que l'Église primitive a fait quand elle s'est réunie. Et je ne suis pas sûr que ce soit faux que certains chrétiens sont faibles, d'autres sont malades, et certains sont même morts, à cause de la manière dont ils ont traité la table du Seigneur, avec indifférence, péché, etc. Maintenant, il dit au verset 31, « Voici le remède. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » L'auto-examen vous conduit directement au verset 28. « Vérifiez votre cœur, vérifiez vos motifs. » Les Corinthiens étaient châtiés par Dieu, parce qu'ils ne s'examinaient pas, nettoyaient leur propre vie. Et au verset 32, il y a un beau verset, un verset fantastique. J'aurais souhaité avoir plus de temps, mais nous devons nous dépêcher. Mais quelqu'un va maintenant dire, « Oh, mais c'est trop, mon frère, je ne peux pas gérer cela. Je vais venir à la table, et si quelque chose ne va pas, alors ça y est, je meurs. Je veux dire, je peux finir en enfer, vous savez, quel est le problème? J'aime cela. Mais quand nous sommes jugés, il dit, nous sommes châtiés par le Seigneur. afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas damnés avec le monde. Vous voulez entendre quelque chose? Aucun chrétien, à aucun moment, en aucune circonstance, ne sera jamais damné avec le monde. Les personnes disent, « Oh, est-ce que cela signifie que je perds mon salut? Cela signifie-t-il que je suis perdu? Non. Vous ne serez jamais damné avec le monde, parce que vous serez quoi? Châtié par le Seigneur. La pire chose qui puisse arriver à un chrétien serait le châtiment ultime. Et qu'est-ce que c'est? Vous emmenez au paradis. Vous dites, ce n'est pas si mauvais. Le point du verset, un verset énorme, c'est, regardez, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas damnés avec le monde. Vous dites, mais peut-être que le Seigneur ne me châtiera pas. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Chaque chrétien est sous la main du Seigneur, qui l'empêche de jamais être condamné par le monde. Est-ce une grande vérité? Donc, nous n'avons pas cette peur ultime. Je ne sais pas pour vous. Je préférerais juste être en bonne santé, heureux et vivant pour un petit moment. Alors je veux m'examiner quand je viens à la table du Seigneur. Alors il termine avec les versets 33 et 34, en disant « Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Vous rappelez-vous la semaine dernière, ne vous goinfrez pas avant l'arrivée des pauvres, afin qu'il n'y ait plus rien pour eux. Et si vous avez faim, rentrez chez vous et mangez, afin que vous ne soyez pas rassemblés et châtiés. Et je vais régler dans l'ordre le reste des problèmes, quand je viendrai. Je ne sais pas quels sont les autres problèmes, mais vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Tout cela, bien aimé, pour dire simplement que Dieu est très sérieux sur la façon dont la table du Seigneur est traitée. Alors, partageant la table du Seigneur ce matin, je crois que vous examinerez votre cœur comme je l'ai fait moi-même. Prions. Nous demanderons à nos diacres de venir alors que nous prions et que nous nous préparons à servir. Père, merci d'avoir parlé à nos cœurs, à mon cœur. Je sais qu'il y en a parmi nous ce matin qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme Sauveur et qui ne peuvent pas participer, à moins qu'ils ne le fassent. Et Père, je voudrais prier pour que maintenant tu ouvres leur cœur, qu'ils disent maintenant, « Seigneur Jésus, je veux manger ta chair et boire ton sang. Je veux accepter ton incarnation et ta mort sacrificielle pour moi. Il y a d'autres chrétiens, Seigneur, qui ne peuvent pas participer à cause du péché non confessé, non repenti, de l'amertume, et peu importe quoi d'autre. Puissent-ils l'avouer maintenant? Puissions-nous examiner nos cœurs et ainsi manger et boire au nom de Jésus? Amen. »
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'étude de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.